Ce matin, je voulais parler un petit peu de la Sainte-Seine. Mais avant de parler de la Sainte-Seine, ben forcément, j'aimerais qu'on puisse voir quelques points ensemble. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, quand j'ai parlé en fait de l'alliance que Dieu avait faite avec Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, et qui a libéré le peuple de l'esclavage. J'ai expliqué un petit peu les circonstances, les contextes. C'était dans un contexte où vraiment tout avait explosé pour Moïse. Et j'avais vraiment à cœur depuis un bon moment, même plusieurs mois, par rapport à ce message-là, de faire une continuité. Et là, j'aimerais vous parler ce matin des bienfaits de la nouvelle alliance. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance grâce au sacrifice de Jésus. Et quels sont les bienfaits? Alors, avant de parler simplement de la Sainte-Seine, on va juste prendre quelques exhortations que Paul a données, qui expliquent un petit peu la puissance du sacrifice de Jésus et la puissance de cette nouvelle alliance. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais dans cette grâce, il y a une puissance qui nous mène à la justice de Dieu et qui nous mène également à la sainteté de Dieu. Et il faut qu'on puisse saisir cela, et je pense que si on saisit cela dans nos temps personnels et nos temps de communion fraternelle et dans nos temps de Sainte-Seine, il va y avoir encore une puissance, mais au-delà de ça, une profondeur qui va se dégager dans nos vies. On va prendre deux textes, ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est lisible pour vous. J'espère que vous avez vos Bibles. C'est l'occasion de la sortir. Voilà. Alors on va prendre dans Romains 5, versets 18 à 21, et Romains 6, versets 1 à 22. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tous comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, versets 1 à 22 apporte plus de précision également. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libéré du péché et que vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bon, sacré passage, mais qui est profond. Qui est profond. On voit dans Romains 5 quelques points importants, c'est que à cause d'un seul homme, on était tous condamnés. On ne va pas dire son nom, on ne va pas dire son prénom, nous savons. Mais à cause d'un seul homme, nous étions tous condamnés. Et par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Quelle est l'obéissance? C'est le sacrifice que Jésus a fait. Quel est cet homme? C'est Jésus. Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Par l'obéissance de Jésus, nous pouvons être rendus justes et nous pouvons être sauvés. Là où la loi nous condamnait face au péché qui se multipliait, là où le péché régnait par la mort, la grâce a régné en surabondance par la justice et pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La conséquence, c'était quand le péché était en train d'abonder, quand le monde était en train de se perdre, malgré toutes les victoires qu'on a pu voir dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, il y avait encore du péché, il y avait encore des choses qui s'accumulaient, ça se multipliait. Malgré le nombre de fois où Dieu a libéré son peuple, le nombre de fois où Dieu a pardonné, il a fallu un sacrifice ultime. Et cette grâce est venue sur terre et nous faisons part à une surabondance. Grâce à Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là que nous prions. Là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et c'est ce que nous devons proclamer quand on prend cette sainte cène, quand on prend ce repas. Là où le mal a abondé, je veux proclamer que la grâce va surabonder. Mais il y a aussi une prise de conscience que nous devons avoir. Et l'apôtre Paul l'explique bien également. Dans Romains 6, le verset 1, il dit « Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» Est-ce qu'on veut persister dans le péché? Je ne pense pas. Quand nous étions esclaves, on n'était pas bien. Mais quand Jésus est venu nous libérer, il y a eu quelque chose qui a changé dans nos cœurs et dans nos vies. Quel est notre état d'esprit? C'est ça un petit peu ce que Paul veut dire. Quel est ton état d'esprit? Parce qu'il y a la grâce, est-ce que tu vas persister ou est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux combattre le bon combat? Le verset 4 nous dit « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Ça veut dire que quand nous sommes morts en Jésus-Christ, le péché est mort également. Et on a cette opportunité d'avoir une vie nouvelle. Regardez le baptême. Quand on se baptise, plouf, toute notre ancienne nature, on la laisse là. Et quand on ressort de l'eau, on vit une vie nouvelle. Prenez l'exemple, quand vous avez vos mains sales, si vous avez fait du jardinage ou de la peinture, quand vous passez sous l'eau, vous nettoyez bien, on ne voit plus les traces. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est cette grâce-là que nous avons en Jésus-Christ. Cette possibilité d'être lavé et purifié et d'être gracié. C'est ça que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est là où il y a la puissance, quand on reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne choisissons pas de persister vers le mal, mais persistons vers la justice de Dieu. Nous sommes morts avec Christ et Christ vit en nous. La mort et les péchés n'ont plus le même pouvoir. On a le pouvoir de dire non. Moi, je me suis rendu compte qu'avant que je rencontre Jésus, j'étais ado et j'avais certaines tentations d'ado. Je n'arrivais pas à dire non. Et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai eu une force que je n'avais pas avant. Le pouvoir de dire non. Parce qu'il y a un lien spirituel. Et c'est à la fois spirituel, mais c'est également à la fois physique. Et parfois, des fois, dans nos agissements, quelqu'un qui n'a pas Dieu, il va dire, bah, toi, tu m'as fait mal, je vais me venger, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression, oui, bon, ça fait 40 ans que je suis comme ça, je ne changerai pas. Hein? Ouais, parce qu'il n'a pas Jésus. Mais quand on se laisse toucher par la grâce, par la justice, et qu'on veut faire ce travail également de sainteté, ça fait 40 ans que je suis comme ça, mais je sais que si j'écoute Dieu et si je cherche mon cœur avec Dieu, je vais pouvoir changer. Donc tout est réuni. Tout a un équilibre. Et ça, c'est très important. Le verset 12 et 13 nous dit « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. » Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. On voit ici que l'apôtre Paul nous invite à ne pas livrer nos membres au péché, c'est-à-dire ne pas être esclave de la chair. Parfois, ça peut être la convoitise, ça peut être l'orgueil ou propager la division, ça peut être plusieurs choses. Mais c'est à nous d'avoir également la bonne maîtrise de nous-mêmes face à ces choses-là, face à tout ce qui peut nous influencer. Est-ce que je veux être esclave de porteur de division ou plutôt être esclave de la justice de Dieu, de porteur de bénédiction? Être esclave du règne de Dieu pour être des instruments de la justice, pour procurer la paix et l'amour autour de nous. C'est pas toujours facile quand on a des sales coups. Mais c'est ça que nous devons être, esclaves de la justice, de l'amour et de la paix. Alors le mot esclave peut frapper, mais je préfère plutôt être esclave de bonnes choses que d'esclave de mauvaises choses. Indirectement, quand ma mère elle me disait « Claudio, tu touches pas à ça ben, !» J'étais son esclave, dans le bon sens. Je lui ai envoyé la vidéo. Mais ô combien, dans cette obéissance, j'ai pu être protégé. Une fois, je n'ai pas obéi. Elle m'a dit à moi et mon frère, « Vous sortez pas !» Nous, on voulait faire du foot. « Vous sortez pas !» On voulait faire du foot. « Vous sortez pas !» Elle est partie à la réunion de prière. On est sorti, on a fait du foot. Je suis monté sur un petit truc, j'ai sauté. Bam ! Et je me suis ouvert. Hôpital, failli mourir. Troisième œil. Donc voilà. Et tous les jours, quand je regarde ça, je me dis, ah, j'ai péché. J'ai pas obéi. Et si j'avais obéi, alors des fois, il vaut mieux être esclave de la mamma que de Claudio lui-même, que de ma propre chair. Mais je pense que c'est important qu'on prenne des prises de conscience comme ça. Parce que des fois, on lit certaines choses dans la Bible et on pourrait mal le prendre et se sentir condamné, se dire « bah c'est mort, j'y arriverai pas ». Mais quand on y va bienveillant, avec obéissance, dans le cœur de Dieu, là tout change. Parce que c'est Dieu qui vient influencer en nous. C'est pas nous qui allons rentrer dans une religion ou dans un état de pensée, mais c'est vraiment dans notre cœur à cœur où on commence à changer et on peut bénéficier de la grâce de Dieu. Et ça, c'est important à saisir. Le verset 14 nous dit, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Paul nous exhorte à choisir notre camp, le péché ou Dieu. Nous constatons un encouragement de l'apôtre Paul pour le chrétien sur la lutte qu'il va avoir à livrer sur la chair. C'est une lutte. C'est une lutte. Ça veut dire que même quand on a combattu, qu'on a réussi, des fois ça va revenir. Je parlais avec une amie il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, tu vas voir, des fois il y aura des Goliaths qui vont revenir. Mais si tu saisis et que tu le bats, le Goliath t'arrivera encore à le battre. Et c'est une lutte que nous avons. Le péché ne règnera pas sur vous, car nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est Jésus, notre souverain sacrificateur. Et on a un accès en illimité, en haut débit. Et c'est gratuit. Il faut retenir ça, c'est gratuit. Romains 5, verset 21, on l'a lu. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. C'est-à-dire que la loi te disait ça et ça et ça et ça et ça, c'est toutes tes erreurs. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. On en a parlé précédemment. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même par la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est Jésus. C'est pas nos efforts, c'est Jésus. Mais il y a quand même une motivation de notre part. Qu'est-ce qu'on choisit ? Grâce à la grâce, il nous est possible de nous approcher du cœur de Dieu et d'avoir la victoire sur le péché. La sanctification et la consécration en Dieu sont devenues possibles, car nous ne sommes plus sous la loi qui nous séparait de Dieu, mais sous la grâce. Et quand nous sommes dans le cœur de Dieu, nous prenons part à sa sanctification par la consécration de nos cœurs au travers du sang de Jésus. Au plus nous nous approchons du cœur de Jésus, et au plus nous nous laissons transformer, on a chanté « Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. » Majesté, sans valeur, mais pour toi, je connais l'autre version, perle de prix. Majesté, tu m'as transformé. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous nous sommes transformés. C'est la puissance de Jésus, de l'amour de Jésus qui nous transforme. Mais est-ce que je choisis d'être esclave de Jésus qui va transformer ma vie pour bénéficier de tout cela, de sa grâce, de sa justice, de sa sanctification? Ou est-ce que je fais le yo-yo? Mais le yo-yo, c'est pas bon. Une fois, j'ai fait un yo-yo trop fort, je l'ai pris dans la tête. Le verset 15 nous dit... Quoi donc, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. C'est-à-dire que là, il y a quand même un avertissement. Il ne faut pas se jouer de la grâce. Est-ce que je fais le choix d'être dans une paresse spirituelle ou est-ce que je choisis de combattre le bon combat qui me permet, par la grâce, de marcher dans la consécration et la sanctification en Jésus-Christ? Il faut trouver le bon équilibre. Et ça, parfois, c'est chaud. Après, j'ai bien aimé ce que Nadège a dit également, parce que parfois, le risque de vouloir plaire à Dieu au maximum, c'est de tomber dans une mauvaise culpabilité. Et ça, c'est le piège. Et quand on commence à tomber dans une mauvaise culpabilité, on risque de devenir religieux. Et quand on est trop grasse, ben, on risque d'être laxiste sur la sainteté. Et on ne se remet pas en question. Alors que la Bible, chaque chose dans la Bible nous pousse à nous remettre en question. Quand on voit les failles de nos aînés, même parfois les failles des héros de la foi, comme on dit, oh, j'aimerais pas faire ça. Mais à l'instant T, comment on va être? C'est pour ça qu'il ne faut pas se jouer de la grâce. Il faut trouver un bon équilibre. J'avais une petite image. par rapport au bon équilibre. Et c'est bien, Bruno, que tu aies parlé de sniper et de viseur, parce que j'avais cette image-là, c'était celle des flèches. Et on a un but, c'est de viser précisément. Le but, c'est de gagner. Et en général, moi, quand on joue, j'ai pas envie d'aller sur les côtés, j'ai envie d'être au centre. J'ai envie de viser le centre. Parce que je sais que si j'ai visé le centre, bah, y a personne qui pourra me dire « t'as visé à côté, t'es nul ». Et le diable, c'est un peu ça. « Ah, t'as péché, t'es nul. Ah, t'as craqué le sac. » Mais quand on est connecté à la grâce de Dieu et que tout est bon, tout colle. Et quand on veut faire le malin, le yo-yo, ou qu'on n'est pas juste, ou qu'on ne choisit pas quel camp on veut, ben, j'y arrive pas. Tu veux essayer, Bruno? Voilà. Quand on ne sait pas quel maître on veut choisir, Jacqueline, essaye de le coller. Regarde. On n'arrive pas à les mettre au centre. Il y a conflit. Mais là, Jean-Luc. Mais c'est important de prendre conscience. On essaye, on n'y arrive pas. Parce que Dieu, il veut qu'on ait un équilibre. Et si on a un déséquilibre, on ne va pas y arriver. Et vous savez ce qui se passe quand on mélange tout ? Ben on s'embrouille. Hein ? Alors, c'est sûr que c'est notre cœur avant tout. Ça, c'est sûr. Mais notre tête doit prendre conscience des bonnes choses et d'avoir un bon équilibre. Sinon, on va s'égarer. Je n'ai pas envie d'être un pharisien, mais je n'ai pas non plus envie d'être un pécheur. Donc, trouver le bon équilibre. Et ce n'est pas toujours facile. Quand on prend la Bible à la lettre, on peut des fois s'égarer. Mais quand on laisse le Saint-Esprit et la parole de Dieu venir dans nos cœurs, c'est comme une épée à double tranchant, mais qui fait la bonne séparation. Le verset 16 nous dit « Esclaves du péché ou de l'obéissance à la justice. Nous avons choisi de ne plus être esclaves du péché, mais esclaves de l'obéissance qui conduit à la justice. » J'en ai parlé brièvement juste avant. Mais en gros, si ça peut nous aider, faisons-nous cette réflexion-là. Quel royaume choisissons-nous ? Si je veux vivre le royaume de Dieu dans ma vie, il est bon d'avoir un état moral conforme à la volonté de Dieu. C'est être au service de son obéissance au travers de sa justice. Ça, c'est vivre la pensée du royaume de Dieu. Il y a tellement de belles choses dans un royaume. Et le royaume, c'est là où on a une armée qui est là aussi. C'est là où il y a des moments de repas, des moments de festin. Je veux ce royaume. Verset 19 nous parle « Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » Nous devons progresser. On ne doit pas stagner, mais nous devons progresser. De gloire en gloire, de grâce en grâce, de justice en justice, de sanctification en sanctification, de cœur à cœur avec Jésus. Nous devons progresser. Un point important, c'est qu'on ne s'approprie pas nous-mêmes la justice, la grâce, ni même la sanctification. C'est Jésus qui nous le donne. Ne rentrons pas dans une course au mérite, mais approchons-nous de Dieu pour marcher dans ses desseins. Un pasteur a dit... C'est l'esprit de sainteté en nous et au travers de nous qui va nous aider à marcher d'une manière sainte, pure et agréable à Dieu. À partir du moment où nous laissons mourir à nous-mêmes et que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, il y a ce changement qui se fait et cette sainteté qui se fait. Cette sainteté qui se fait. On peut voir l'exemple de Pierre, comment il était avant et comment il est devenu. parce qu'il y a eu la puissance du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté. C'est Dieu qui nous conduit. Total, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons entretenir cela, mais c'est Dieu qui le fait. Celui qui nous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. C'est grâce à lui et pour lui et par lui. N'oublions pas qu'il est le souverain sacrificateur. 1 Corinthiens 30 nous dit, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. Moi, quand je lis ça, ça me soulage. Parce que par mes propres forces, je ne peux pas. Mais en lui, par lui et pour lui, je peux. Parce qu'une puissance se libère quand nous acceptons Jésus. J'ai invité l'équipe de louanges à commencer à s'approcher un petit peu. Et on va prendre le passage justement de la Sainte-Seine. On va juste voir quelques points, mais j'avais à cœur qu'on puisse partager ça pendant quelques instants de louange. Voici le moment de la Sainte-Seine. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous me trahira. » C'est pendant le repas, le dernier repas de Jésus. « L'un de vous me trahira. » On voit déjà que Jésus commence à interpeller les gens dans leur cœur. Et on voit ici qu'il commence à y avoir une remise en question. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Et je pense que ce temps de Sainte-Seine nous permet également de nous remettre en question. « Est-ce moi, Seigneur, cette semaine qui t'ai fait du mal ? Est-ce moi, Seigneur, cette semaine qui me suis peut-être égaré ? Ben, si c'est moi, je te demande pardon. » On voit ensuite qu'il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Dans ces temps-là, Dieu nous montre également là où on a fait mal, là où on n'a peut-être pas été juste. Mais si nous acceptons Jésus chaque jour dans nos vies, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans nos combats, il est fidèle et juste pour nous relever. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Nous bénéficions d'une nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Ils ont accompagné ce temps de repas avec des chants. Remise en question, révélation. Et pourtant Jésus, à ce moment-là, il savait qu'il allait y avoir des gens qui allaient le trahir. Il savait qu'il allait y avoir des gens qui allaient peut-être dire « Je ne te connais pas. » Mais il a quand même partagé ce repas avec les personnes qui étaient autour de lui. Pourquoi ? parce que c'était le signe de la grâce. Je sais que là, tu vas faiblir, mais ma grâce, je veux partager avec toi. Et cette communion, ce pain, ce vin, c'est cette communion. Je veux le partager avec toi. Alors oui, maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Mais les paroles qui ont été données ce matin nous conduisent simplement dans cette direction-là. Je veux m'approcher de ton cœur, Jésus, parce que tu es le souverain sacrificateur. Je veux m'approcher de ton cœur parce que quand j'apprends encore plus à te connaître de manière naturelle, j'arrive à marcher dans ta sainteté. Parce que tu me révèles les choses qui sont mauvaises. Parce que tu me permets de me remettre en question. Parce que tu me permets, parce que c'est la grâce. Cela nous permet d'avoir cet accès alors que nous n'avions pas cet accès. Il vient plus en te condamnant, mais il vient ici pour t'apporter la grâce, pour t'apporter sa justice, pour t'apporter la consolation, pour t'apporter la restauration, pour t'apporter la guérison, pour t'apporter la liberté, pour t'apporter sa sanctification. Là où la loi te disait « t'es mort », Jésus nous a libérés. Je parlais une fois avec mon frère Luigi, quand j'étais jeune dans la foi, j'ai dit « tu vois, là j'ai pas réussi ». Et il m'a dit une parole qui m'a libéré. Il m'a dit « tu sais, si demain le diable est sur l'estrade, il va tous vous regarder et va dire « coupable, 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 coupable. » Mais il m'a dit « mais si tu es devant Jésus, par son sang, il va te pardonner. Il va te purifier. » Et ça a eu un changement dans ma vie. Énorme. Énorme. C'était tellement dur alors que j'avais même eu la révélation de Dieu que je ne voulais même pas me baptiser. Parce que par mes propres forces, j'y arrivais pas. Parce que des fois, j'étais un fougueux. J'étais sage à l'école, mais en dehors, j'étais un fougueux. Et quand j'ai reconnu que c'est lui qui le fera, je me suis approché de son cœur. Encore plus. Et on a grandi en maturité. Et chacun de nous, c'est la même chose. On a grandi en maturité. Bon, on a des traits de caractère, des fois, ils ne sont pas beaux. Mais si on cherche le cœur de Dieu, il va nous dire, là, avec ce caractère-là, tu es en train de me trahir, mon ami. Et on va dire, bah, Seigneur, change mon caractère. Ok. Même si ça passait 40 ans. Tout est accompli. Quand on regarde les plaies d'Égypte, il y a eu le sang de l'agneau mis sur les linteaux. Et c'était grâce à ce sang-là que les nouveau-nés ne sont pas morts. Parce qu'il y a eu obéissance. Il a dit « Ok, je veux la sanctification, je veux la grâce, je veux l'amour, je veux la protection. » Et ce repas, c'est la même chose. Suite à la dernière plaie, il y a eu libération. Et suite au dernier sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été libérés également. Ce corps, on le sait très bien, le pain représente le corps. Le vin représente le sang de la nouvelle alliance. Et je veux proclamer, quand je prends ce pain et ce vin, que j'ai été racheté à un grand prix et que je veux persévérer. Et qu'en prenant ce pain et ce vin, je ne veux pas me jouer de la grâce ni me jouer d'autre chose, mais je veux trouver le bon équilibre, être comme ces flèches qui se collent correctement. On va prendre un dernier passage. C'est Jean 6, 51 à 58 qui dit « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. » Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. C'est grâce à Dieu, pas à nos efforts, mais grâce à Dieu. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Que dire après cela ? À part que nous avons un grand Dieu.